Ils brandissent des pancartes et scandent des slogans pour réclamer un état de droit, un pays démocratique et aussi pour exiger la chute de ce régime et le départ des puissances étrangères présentes en Syrie. Mais ce lundi, le cortège de manifestants a été violemment réprimé, à la fois par les forces de l'ordre, mais aussi par des miliciens du parti Baas, le parti au pouvoir. Cette milice a organisé une contre-manifestation, donc favorable au pouvoir. Et ces militants pro-régime ont attaqué les anti-régimes à l'aide de gourdins et d'armes blanches. La police a ensuite arrêté quelques manifestants anti-régime qui sont désormais portés.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début des XXe
siècle. Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5, intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9,
intitulé « Espèce de navire miniature plexiglas ».
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Aujourd'hui, à travers les mots de Julien Turc, poète angevin, les lignes de Marguerite Duras et celles de Laurent Mauvignier, nous allons faire une traversée des sons, des sens, du désir, de l'amour.
Je l'ai vu tout à coup dans un peignoir noir. Il était assis, il buvait un whisky, il fumait. Il m'a dit que j'avais dormi, qu'il avait pris une douche. J'avais à peine senti le sommeil venir. Il a allumé une lampe sur une table basse. C'est un homme qui a des habitudes. Je pense à lui tout à coup. Il doit venir relativement souvent dans cette chambre. C'est un homme qui doit faire beaucoup l'amour. C'est un homme qui a peur. Il doit faire beaucoup l'amour pour lutter contre la peur. Je lui dis que j'aime l'idée qu'il ait beaucoup de femmes, celle d'être parmi ces femmes confondues. On se regarde. Il comprend ce que je viens de dire. Le regard altéré tout à coup, faux, pris dans le mal, la mort. Je lui dis de venir, qu'il doit recommencer à me prendre. Il vient. Il sent bon la cigarette anglaise, le parfum cher, il sent le miel. À force, sa peau a pris l'odeur de la soie, celle fruitée du tussor de soie, celle de l'or. Il est désirable. Je lui dis ce désir de lui. Il me dit d'attendre encore. Il me parle, il dit qu'il a su tout de suite, dès la traversée du fleuve, que je serai ainsi, après mon premier amant. Que j'aimerai l'amour, il dit qu'il sait déjà que lui, je le tromperai. Et aussi que je tromperai tous les hommes avec qui je serai. Il dit que quant à lui, il a été l'instrument de son propre malheur. Je suis heureuse de tout ce qu'il m'annonce et je le lui dis. Il devient brutal, son sentiment est désespéré. Il se jette sur moi, il mange les seins d'enfants, il crie, il insulte. Je ferme les yeux sur le plaisir très fort. Je pense. Il a l'habitude. C'est ce qu'il fait dans la vie. L'amour. Seulement ça. Les mains sont expertes, merveilleuses, parfaites. J'ai beaucoup de chance, c'est clair. C'est comme un métier qu'il aurait sans le savoir. Il aurait le savoir exact de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire. Il me traite de putain, de dégueulasse. Il me dit que je suis son seul amour et c'est ça qu'il doit dire. Et c'est ça qu'on dit quand on laisse le dire se faire. Quand on laisse le corps faire et chercher et trouver et prendre ce qu'il veut. Et là, tout est bon. Il n'y a pas de déchets. Les déchets sont recouverts. Tout va dans le torrent, dans la force du désir. Le bruit de la ville est si proche, si près, qu'on entend son frottement contre le bois des persiennes. On entend comme s'il traversait la chambre. Je caresse son corps dans ce bruit, ce passage. La mer, l'immensité qui se regroupe, s'éloigne, revient. Je lui ai demandé de le faire encore et encore. De me faire ça. Il l'avait fait. Il l'avait fait dans l'onctuosité du sang et cela, en effet, avait été à mourir. Et cela a été à en mourir. Il a allumé une cigarette et il me l'a donnée. Et tout bas contre ma bouche, il m'a parlé. Je lui ai parlé moi aussi tout bas. Parce qu'il ne sait pas pour lui. Je le dis pour lui à sa place. Parce qu'il ne sait pas qu'il porte en lui une élégance cardinale. Je le dis pour lui. C'est le soir qui vient maintenant. Il me dit que je me souviendrai toute ma vie de cet après-midi. Même lorsque j'aurai oublié jusqu'à son visage, son nom. Je me demande si je me souviendrai de la maison. Il me dit, regarde-la bien. Je la regarde. Je dis que c'est comme partout. Il me dit que c'est ça, oui, comme toujours. Je revois encore le visage et je me souviens du nom. Je vois encore les murs blanchis, le store de toile qui donne sur la fournaise. L'autre porte en arcade qui mène à l'autre chambre et à un jardin à ciel ouvert. Les plantes sont mortes de chaleur. Entourées de balustrades bleues comme la grande villa de Sadek, étagées de terrasses qui donnent sur le Mekong.
Aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Je porte une robe de soie naturelle. Elle est usée, presque transparente. Avant, elle a été une robe de ma mère. Un jour, elle ne l'a plus mise parce qu'elle la trouvait trop claire. Elle me l'a donnée. Cette robe est sans manches, très décolletée. Elle est de ce bistre que prend la soie naturelle à l'usage. C'est une robe dont je me souviens. Je trouve qu'elle me va bien. J'ai mis une ceinture de cuir à la taille, peut-être une ceinture de mes frères. Je ne me souviens pas des chaussures que je portais ces années-là, mais seulement de certaines robes. La plupart du temps, je suis pieds nus en sandales de toile. Je parle du temps qui a précédé le collège de Saïgon. À partir de là, bien sûr, j'ai toujours mis des chaussures. Ce jour-là, je dois porter cette fameuse paire de talons hauts en lamé or. Je ne vois rien d'autre que je pourrais porter ce jour-là, alors je les porte. Solde soldée que ma mère m'a acheté. Je porte ces lamés or pour aller au lycée. Je vais au lycée en chaussures du soir ornées de petits motifs en strass. C'est ma volonté. Je ne me supporte qu'avec cette paire de chaussures-là. Et encore maintenant, je me veux comme ça. Ces talons hauts sont les premiers de ma vie. Ils sont beaux, Ils ont éclipsé toutes les chaussures qui les ont précédées, celles pour courir et jouer, plates, de toile blanche. Ce ne sont pas les chaussures qui font ce qu'il y a d'insolite, d'inouï ce jour-là dans la tenue de la petite. Ce qu'il y a ce jour-là, c'est que la petite porte sur la tête un chapeau d'homme au bord plat, un feutre souple couleur bois de rose au large ruban noir. L'ambiguïté déterminante de l'image, elle est dans ce chapeau.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Un jour, j'étais âgée déjà, dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venue pour vous dire que moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. » Je pense souvent à cette image que je suis seule à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours là, dans le même silence, émerveillante. C'est entre toutes celles qui me plaît de moi-même, celles où je me reconnais, où je m'enchante. Très vite dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. Entre 18 et 25 ans, mon visage est parti dans une direction imprévue. À 18 ans, j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est tout le monde, je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois alors qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l'ai vu gagner mes traits un à un, changer le rapport qu'il y avait entre eux, faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive, marquer le front de cassures profondes. Au contraire d'en être effrayée, j'ai vu s'opérer ce vieillissement de mon visage avec l'intérêt que j'aurais pris, par exemple, au déroulement d'une lecture. Je savais aussi que je ne me trompais pas, qu'un jour, il se ralentirait et qu'il prendrait son cours normal. Les gens qui m'avaient connue à 17 ans lors de mon voyage en France ont été impressionnés quand ils m'ont revue, 2 ans après, à 19 ans. Ce visage-là, nouveau, je l'ai gardé. Il a été mon visage. Il a vieilli encore, bien sûr, mais relativement moins qu'il n'aurait dû. J'ai un visage lacéré de rides, sèches et profondes, à la peau cassée. Il ne s'est pas affaissé comme certains visages à traits fins. Il a gardé les mêmes contours, mais sa matière est détruite. J'ai un visage détruit.
Faudra user de l'ombre et de la patience. Tendre la main, il sait faire. Il l'a déjà fait, hier, avant-hier. C'était dans la nuit, dans le jour. C'était au fond des voitures et des cinémas au siège défoncé. Il a connu ce geste au bord de l'eau, dans des bordels improvisés sur les quais ou dans des chambres d'hôtel. Et puis chaque jour, il avance la main vers un visage. Celui-ci tend le cou et n'a pour timidité et rougeur que l'étonnement de son regard. Il se redresse sur les coussins et regarde vers les doigts. Ils avancent vers la bouche et elle sourit, peut-être, ou non, se détend, et en laissant paraître les mailles des dents, ne dit rien. Il ne faut rien dire à ce moment-là, puisque c'est le moment de la lenteur, le regard aveugle et lointain derrière le mur épais de la peau et des cavités, des orbites de la pointe du nez. Lui, son regard est dans les doigts qui s'avancent et ose la peau de l'autre, le cou, le menton. Son regard scrute autour des paupières et sur le front. Les doigts avancent et veulent connaître sous l'ombre ce que le visage recèle, puisqu'ici, il tient droit avec ses ombres et ses bosses, ses expressions d'attente et de soumission, déjà s'étonnant vaguement d'être l'objet qu'on touche pour faire parler le reste, comme si c'était lui la clé, qu'il retenait le secret des limites. Parce qu'on n'est pas sûr que les limites du visage tiennent en son dessin. Alors lui, bientôt, ce sera à pleine main la forme entière de la figure et de ses cavités, les orbites, une bouche et un nez qu'il faudra tenir et pétrir pour y trouver la chance que s'ouvrent des vérités comme les visages n'en donnent jamais. Lumière bleutée comme un tremblement de craie pour marquer la rage forcenée de l'arcade et la peau couleur de coquille d'œuf, jaune par endroits avec par-delà la peau la lenteur qui se fait sourde à ce qui va venir alors que le calme est là pour retenir de crier ce qui attend. Il prend de ses doigts, il veut prendre à l'obscurité des plis, ce qui s'entremêle dans le visage. Ne se découvre que par les doigts. Le sillon des rides trop pauvres, où la jeunesse dissimule la fatigue et la vieille douleur qui attend, le tremblement encore et le souffle qui retient les mots, les corps entiers qui tremblent et n'osent rien tant que les mains cherchent autour des yeux, à l'aile du nez, tant que les doigts dessinent le portrait pour en reconnaître l'ardeur et cette densité si rare, si folle déjà de savoir qu'il s'agit de quelqu'un, d'une présence. Oui, ce visage, il ne l'invente pas. Il est là, il ose le chercher. Il avance les mains et les doigts, suivent les traces, les ombres des expressions et des sourires venus d'ailleurs. Il reconnaît une femme dans l'angle pointu du menton, une autre dans la douceur de la ride, là, sous l'œil, au-dessus de cette veine bleutée qui lui fait peur. Mais peu importe, la peau est une pâte qui modèle l'image de toutes les images. C'est parce qu'il ne connaît pas ce visage-là. C'est tous les visages qui se tiennent derrière ces traits qu'il touche. Mais aucun trait, rien ne lui semble marquer suffisamment la figure. Rien ne la limite dans ses contours. Il suffit d'appuyer, de lisser pour qu'alors un autre visage apparaisse ou s'efface avec l'expression qu'il portait, d'attente, de soumission déjà à l'amour qui va venir, indifférent et violent que les doigts qui cherchent quand ils tâtent et creuse dans les joues, annonce avec maladresse, c'est vrai, tant il tremble et déjà coupe avec l'ongle, là où il voudrait souligner la peau. La bouche et la douceur des lèvres, ce qu'elle dit, cette douceur sous l'apparence charnue et rouge. Les doigts savent ce qui est rouge, l'ossature sous la peau, au-dessus des sourcils, ils devinent ce qui se cache des idées et des attentes, mais ne savent pas mesurer la fièvre et l'incandescence de ce qui brûle sous les cheveux. Lui, il sait par expérience qu'un sourire est liquide et qu'il n'y a pas de trait, aucun creuset pour forger une décision, une idée, parce que non, c'est un mouvement qui tourne sur lui-même et se vante de son propre délire à fuir, à changer d'idée et de masque, puisque c'est la même chose, que rien ne tient ici, que les changements et les coups de vent dans les yeux, dans les marques du front. Et pourtant, tous les jours et toutes les nuits, lui, il veut la même idée du visage, la même sensation de retrouver une image, quand ce sera soudain l'émerveillement de sentir sous le grain de peau ce qu'il ignore d'un pli ou d'une ride. Et de ce sourcil, de cette arête du nez, tiens, il est plus brutal et volontaire que celui de la dernière fois, où il avait compris la courbe de la paupière et la nostalgie, qu'il pouvait lire comme plus bas la mélancolie qui venait traîner incongrue sur une bouche qui, en s'ouvrant, s'était élancée vers la main. Accrochant les doigts et lissant de salive, comme l'autre bouche va faire tout à l'heure, quand il sera temps de ne plus retenir sa faim. Ce n'est pas encore le temps des soubresauts ni de cette lutte qui les a portés l'un vers l'autre, qu'il l'a porté, lui, vers cet autre corps. Mais ce n'est plus le temps de se dire qu'il est vain de chercher à résoudre dans un corps qu'on ne connaît pas ce qui tient dans la tête, l'hallucination qui consume toute paix et travestit les promesses en vertige, tempé front brûlant, en peur aussi, quand les silhouettes se cherchent dans la nuit, derrière les cigarettes, et les palans qui tournent sur le gravier près des hangars et sur les trottoirs des grands boulevards. Il n'est plus temps, puisqu'ils sont là, tous les deux, face à face, de se dire que le corps ne délivre pas du désir du corps, ni de se demander qu'est-ce qu'il peut mon corps quand je vais le charrier dans les draps et sous les ponts, quand je vais le livrer avec l'illusion d'oubli et la peur de la mort, si forte qu'aussi forte alors ma solution, c'est de mijoter entre les cuisses de celles que leur mari regarde s'épanouir sous les coups qu'on jette à tour de rôle, s'enfonçant là où d'autres, avant, ont jeté ce qui le tenait à cran. Ni le temps de se demander jusqu'où, pour se trouver, il faudrait chercher. Jusqu'où, maintenant, entre ces draps, ces deux corps peuvent-ils espérer en finir avec ce qui les tient en otage, cette furie qui les a fait se lever dans la nuit, fumer des cigarettes, quelques heures, chercher déjà, en fouillant entre les jambes, une accalmie qui n'est pas venue et trébucher sur les images de saints, de membres dilatés et de ceux des hommes dans la nuit qui attendent quelque part, comme les femmes dans les bars et dans les manteaux qu'elles en trouvent sur les résilles et les rondeurs. Il faut chercher la nuit, le jour. Le secret est là, quelque part, qui tient dans ses corps, qui cherche aussi sous les lunettes de soleil et dans les lave-brises automatiques, à la terrasse des cafés. Des regards silencieux et les mains bavardes, des figures muettes et des gueules grandes ouvertes qui font tapage de ce qu'il est trop dur de tenir seul dans sa peau.
Caresse andalouse dans la nuit nymphomane, froissent les rêves nubiles, des nuages roses choient, ivre châle sur les épaules, fenêtre en attente.
D'Alep à Istanbul s'allongent nos corps, lassif pour le voyage des lettres, du scintillement rose, des origines jusqu'au murmure du dernier départ des signes.
Coton, Eva naissance. Eva naissance. Lèvres qui écrivaient notre peau. Je respire l'intime de ton ombre, Lila. Blanc lourd de soupirs, de regrets. Blanc lait. Jet d'encre, blanchisse d'oubli.
Tu te penches sur mon rêve brûlure orientale, secret dans ton sourire, tu sais. fontaine, jasmin et prière, danse aux figures d'éternité. Narguilé et cerise, le voile mouillé emporte les lèvres juste séparées et en silence invite le sommeil.
J'écris pour vos mains, qu'elles dessinent au désir des figures sous la couverture de la nuit ou des tourments aux rêves.
Du jour, verdois des côtes orientales, des brindilles de thym, une danse tout juste oubliée, tu serres ma main. Laisse le jasmin visiter ma nuit.
Le jasmin.
Une promesse d'absence.
Visiter ma nuit.
Respirer encore.
Une promesse d'absence.
Respirer encore.
Respirer.
Dans mes pupilles dilatées.
Respirer encore. Dans mes pupilles dilatées. Corps se fondent, poisson bleu d'une jouissance, d'une ivresse, vert et ciel dans les yeux, crépuscule. Mon enfant blond donne la main au soleil et part pêcher la mer.
Oh, Gueule.